Chapitre 5. Scène de famille. Madame Sébastien avait une cuisinière, ce qui lui permettait de ne rentrer chez elle qu'à midi sonnant. Juste le temps de passer à la cuisine, de goûter la sauce, de mettre à droite la boîte d'épices quand elle la trouvait à gauche, de serrer le couteau à légumes dans le tiroir des livrets des fournisseurs, sous prétexte qu'il encombrait le dressoir, et Madame Sébastien était prête à se mettre à table. Son mari y était déjà, Myriel et son frère Louis causaient dans l'embrasure. Sébastien Champieux était blond et épais, sans rien de la bonhomie brusque et savoureuse qui avait rendu son père digne d'amitié. C'était un gros nonchalant. Sa femme se trémoussait pour deux, mais il n'était dépourvu ni de bon sens, ni de sens moral. Son fils avait été nommé Louis, d'après le grand-père, et pour faire plaisir à celui-ci, assez indifférent d'ailleurs à la famille de Sébastien. Le gamin, mal élevé et rageur, tirait du côté de sa mère. Il avait 16 ans, on le destinait au commerce. Il avait suivi jusqu'ici les classes de l'école supérieure, à la ville, partant par le train du matin, déjeunant à midi chez des dames sérieuses, rentrant par le tram du soir. Il était actuellement en vacances et s'embêtait à la maison à 20 francs l'heure, suivant son aimable expression, car il avait un goût marqué pour le cinéma, les expositions canines, les concours de cigarettes entre camarades. On l'avait ramené une fois à sa mère comme mort pour avoir fumé d'affilée 25 cigarettes et remporté une glorieuse victoire sur l'autre champion qui était tombé à la 24e. Il lisait un tas de journaux pour rire qui ne passaient point à sa sœur sous prétexte que les femmes n'ont pas besoin de savoir tout ça. « eh bien, » dit le père en déployant sa serviette, « est-ce qu'on dînera aujourd'hui ?» Myriel, en rentrant de son pensionnat, avait insisté, mais sans succès, pour que ce repas s'appelât le déjeuner. Sébastien Champieux voulait manger sa soupe à midi, comme ses ancêtres. « Nous avons un peu prolongé notre visite à grand-maman pour tâcher de lui faire entendre raison, » dit sa femme. « Quant à moi, je déménagerai d'un jour à l'autre si elle voulait. » « Est-elle bien ébranlée, la pauvre femme ?» demanda Sébastien avec une réelle sollicitude. « Tu connais grand-maman, elle crâne, » dit Myriel. « Pour rien au monde, elle n'avouerait qu'elle a eu peur. Moi, je serais morte de terreur à sa place. Je serais au lit, j'aurais le docteur. » « Voilà bien un raisonnement de femme, » fit le jeune Louis. « Premièrement, tu es morte. » Ensuite, tu as le docteur. Ah, dit Myriel, je te conseille de me critiquer, oui, quand on n'a pas plus d'intuition que ça. L'intuition consiste à deviner tout ce qui ne se manifeste pas, disait notre professeur de psychologie, et il disait encore que l'intuition est la marque des plus hautes intelligences et qu'il n'y a pas de génie sans intuition. Louis, un peu écrasé, se tortilla sur sa chaise. La ferme, grogna-t-il. Mais personne ne fit attention à lui, car la cuisinière apportait le rôti et le légume qu'elle mit sur deux réchauds, puis elle se retira. Le père de famille s'empara des attributs de sa charge, autrement dit, le couteau et la fourchette à découper. Pas ainsi, cria sa femme, tu prends le morceau dans le sens du fil. Je te demande pardon, Angélique, je sais ce que je fais. « Non, je t'en prie, tourne le plat. Commence à l'autre bout. »« Laisse-moi découper à ma manière, Angélique. Regarde, une tranche superbe. Est-elle à contre-fil, oui ou non ?»« Bien, bien, bon ami, fais comme tu l'entends, » soupira Angélique quand elle vit qu'elle avait tort. Il lui était positivement impossible de ne pas tatillonner son entourage. Elle avait peine à voir même une personne se moucher sans lui expliquer que pour se moucher, on doit s'y prendre autrement. « Tiens, » fit-elle tout en servant le légume, « j'ai là quelque chose que j'oubliais, un petit paquet que Rosanne m'a remis comme nous sortions. »« Belle fille, Rosanne, beau morceau, » fit le détestable collégien. « Sois convenable, Louis. » « Voici le paquet, » dit-elle, le tirant de sa poche et le posant à côté de son couvert. Elle défit la ficelle, écarta le papier, vit une enveloppe non fermée et un couteau. un gros couteau de poche en corne de serre à plusieurs lames, un nom gravé sur la petite plaque d'acier poli. « C'est ton couteau, Louis !» dit-elle tranquillement, comme une personne marchant sans le savoir sur le ressort qui déterminera une explosion de dynamite. « Tu avais donc perdu ton couteau ? Et il y a un mot dans l'enveloppe !» Tout à coup, Louis changea de couleur. Sa figure fadasse se figea dans une expression de frousse intense qu'il aurait étonné s'il avait pu se voir. Sa mère ajusta un lorgnon d'or sur son nez. La carte de visite de Rosanne. Mademoiselle Rosanne Dupommier vous remet ce couteau qu'elle a trouvé ce matin sous la fenêtre de Madame Champieu. Elle n'en a parlé à personne. Madame Sébastien avait lu ces mots à haute voix sans paraître les comprendre. Elle les relut. Le père, la sœur, gardaient un silence un peu effrayant. « C'est ton couteau ?» demanda enfin la mère d'une voix tremblante. « Bien sûr que c'est mon couteau. Qu'est-ce que ça vous fiche? Qu'est-ce que ça prouve ?» fit l'aimable adolescent, essayant de braver le regard vraiment terrible de son père. « Ah, tu sais, pas de blague ici !» dit Sébastien. « On va s'entendre et à fond, mon petit !» Voilà pourquoi Rosanne m'a recommandé d'ouvrir le paquet en famille, s'exclama Madame Angélique. La gueuse, mauvaise créature sans cœur. Elle voyait les faits, elle voyait la scène. Je trouve au contraire qu'elle a eu du tact, dit Myriel. Nous vois-tu ouvrant ce paquet devant la cuisinière, par exemple? Nous aurions eu les gendarmes dans 5 minutes. N'exagère pas, fit sa mère avec irritation. Louis n'a pas commis un crime. « Ah, c'est toi les apaches, les malandrins dont maman parlait chez grand-maman et sur qui il fallait lâcher des troupes !» dit Myriel sans pitié pour sa mère et ne résistant pas à l'humour de la situation. « Tais-toi, dit son père, ne plaisante pas, nous sommes dans une position honteuse. » Tout à coup, son visage s'enflamma, se tourna vers le flasque Louis dans un flamboiement de colère. « Se peut-il, tonna le père, se peut-il que mon fils soit une petite crapule, une lâche petite crapule, capable d'aller pendant la nuit épouvanter une vieille femme sans défense ?» Jamais Sébastien Champieu, le marchand de tourteaux, d'orge et de paille, l'homme casanier, le bon pantouflard qui mettait ses pieds dans une chancelière, n'avait prononcé des mots pareils au sein de sa famille. « Et que faire? Que faire ?» dit-il ensuite, s'apaisant, s'éteignant comme un feu qui a fini sa flambée. « Mais rien, mon ami, rien du tout. Qu'y a-t-il à faire ?» sanglota Madame Sébastien. « Punir cette canaille de gamin, j'imagine » souffla-t-il en une dernière bouffée. « Va dans ta chambre, vaurien !» Écoutez, fit Louis en se carrant sur sa chaise, car son aplomb revenait. Il faudrait tout de même s'entendre. On a trouvé mon couteau. En règle, je pourrais nier. Je ne nie pas. C'est moi qui ai inventé ce truc, c'est moi qui ai exécuté la chose. Pourquoi ? Pour vous aider, voyons. Pour aider à maman. Qu'est-ce qu'elle désire, maman, au point que c'est une idée fixe ? Elle désire habiter au château. Du château, grand-maman n'en sortira pour de bon que les pieds en avant, et encore, c'est pas certain qu'elle nous le lègue. Alors quoi ? Lui faire comprendre bien doucement qu'elle aurait tout avantage à nous avoir pour locataires, puisqu'il y a des rôdeurs dans le pays. C'est une chose que maman m'a rabâchée, pas une fois, mais 100. « Je n'ai jamais parlé de rôdeurs !» cria sa mère. « Non, c'est moi qui y ai pensé tout seul. C'est une intuition !» fit modestement Louis en clignant de l'œil à sa sœur. « tu vois le résultat !» fit Sébastien qui se tourna vers sa femme. « Si je m'attendais à ça, » fit-elle rouge, haletante. « Le résultat de quoi, s'il te plaît ?»« De n'être jamais contente, de toujours désirer ce qu'on n'a pas. N'es-tu pas bien ici, dans cette maison où rien ne te manque ? Fichez-moi la paix avec cette mal tournée. Me l'avez-vous assez rabâché, votre mal tournée ? J'en ai par-dessus les yeux de votre mal tournée. » « On dit, j'en ai soupé, c'est plus moderne, » fit observer Louis. Il se croyait hors de cause, à présent que c'était maman que papa attrapait. mais son père l'interpella d'un ton furieux. « Je te montrerai ce qui est moderne, moi. Tu seras dans ta chambre, aux arrêts, pendant 15 jours. »« Ah, papa !» fit le gamin imperturbable. « Ce n'est pas moderne, ça, c'est moyenâgeux au contraire. » « Louis, dit sa mère, sors si tu ne veux pas que les choses tournent mal. »« Pardon, fit Myriel, une minute s'il vous plaît. Il y a pourtant quelques mesures à prendre. Vous oubliez qu'il y a eu une plainte déposée. »« Par qui ?» tonna Sébastien. « Mais par maman, ce matin, en allant au château. »« C'est cela, tourne-toi aussi contre moi, » dit sa mère qui recommença à sangloter. « Pas du tout, maman. J'essaie d'arranger les choses. »« Tu as porté plainte, toi ? De quel droit ?» demanda encore son mari. « J'ai cru bien faire, Sébastien. Tout le village parlait de cette attaque nocturne. »« Attaque ? » grommela Louis. « Et comme tu étais absent, comme le pasteur était absent, comme personne ne remuait un doigt, je suis entré à la gendarmerie en passant vers 11h15. » J'ai dit au brigadier qu'il ferait bien de surveiller les chemins de la campagne et de ramasser tous les vagabonds. Maintenant, il faut donner contre-ordre, c'est bien simple. Bien simple, bien simple, marmotta Sébastien. Et c'est moi qui ferai ta commission, je suppose. Que dirais-je au brigadier ? Tu diras qu'on a exagéré les choses, que Madame Champieu du château a peut-être eu un cauchemar. « Sans doute, elle a entendu un peu de bruit, des aboiements, mais on ne saurait empêcher les chiens d'aboyer. On n'a rien brisé, rien ouvert même, ce sont les propres paroles de ta belle-mère, Sébastien. Elle est très fâchée qu'on fasse tant d'esclandre pour rien. Tu exposeras tout cela au brigadier. »« Tu le lui exposeras mieux que moi, » dit son mari. « Moi, d'abord, s'il me questionne un peu, je me couperai. Les hommes sont moins retors que les femmes. » « Maman est trop agitée, » dit Myriel. « Elle gâtera encore les choses. J'irai moi-même. Finissons de dîner. Il faut que Caroline ne se doute de rien. »« Tu penses à tout, » dit son frère, moitié moqueur, moitié reconnaissant. « C'est heureux. Et toi, Louis, fais-moi le plaisir de n'avoir plus aucune espèce d'intuition. Tu vois le gâchis qu'elles font, tes intuitions. » « Ce qui m'ennuie énormément, c'est que Rosanne nous tient par le manche à présent. Nous serons toujours mal à l'aise vis-à-vis d'elle. »« Ça, c'est vrai, » dit le père de famille. « Ah, ça presti ! Ah, ça perlotte ! Ah, mille bombes de mille tonnerres !» Ce fut un crescendo terrible. Ses yeux s'enflammèrent de nouveau, la colère à demi éteinte se réveilla formidable. Nous les Champieux, être à la merci d'un bout de fille, d'une fichue maligne qui nous fera marcher. Elle n'a rien dit à personne, papa. Elle se conduit très bien, elle sait ce qui nous est dû, balbutia sa femme. Elle nous tient, je te dis, elle nous fera marcher, cria-t-il. Je ne crois pas, fit Myriel tranquillement. Rosanne se respecte. Si elle avait voulu nous nuire, comme c'était simple pour elle de remettre le couteau de Louis à grand-maman. N'empêche, dit Sébastien, que je n'oserai plus jamais regarder Rosanne dans les yeux. Mon Dieu, rétorqua sa femme avec quelque aigreur, je ne vois pas pourquoi tu la regarderais dans les yeux. Laissez-moi me tordre, murmura Louis facétieusement. Il était très content du tour que prenait l'affaire. Tel était le ton moral du ménage Champieux. Le père, avec quelque idéal d'honnêteté, d'éducation, manquait de souffle et d'énergie. Sa femme, simplement vulgaire de sentiments, brouillait les cartes et trichait avec désinvolture. Les deux enfants sauvaient leurs enjeux comme ils pouvaient. Louis avec insolence, Myriel plus finement, plus utilement, ne perdant jamais de vue l'intérêt de famille. Car, villageoise avant tout, elle savait qu'au village, si la famille n'est pas un bloc, elle n'est rien. Et qu'au village, l'influence réside dans la famille plutôt que dans l'individu. Il fallait que les quatre Champieux marchassent toujours en bataillon carré. Aussitôt qu'elle eut servi le café, ce qui était son rôle quotidien, Myriel s'éclipsa. Elle mit soigneusement, devant le miroir, son grand chapeau de paille couvert de trop de bleuets, Elle se ganta et prit son parasol comme pour une promenade. Flânant un peu, elle arriva comme par hasard devant le poste de gendarmerie, monta les deux marches, ouvrit la porte qui était vitrée. C'était une petite pièce entourée de bancs de bois, une sorte d'antichambre. Quelques affiches, règlements, arrêtés du Conseil d'État, circulaires officielles, faisaient des parois une sorte d'habit d'arlequin quadrillé de rouge, de vert, de jaune. Une porte se trouvait au fond. Myriel y frappa, personne ne répondit. Elle appuya sur la poignée, c'était fermé à clé. Myriel secoua la tête, très contrariée. Le brigadier et son gendarme étaient en tournée, évidemment, et peut-être occupés à cueillir des malfaiteurs jusqu'aux extrémités les plus lointaines du territoire communal. Tout à coup, une idée vint à Myriel. Si j'allais à la malle tournée, grand-maman fait sa sieste, Madame Dupommier également. Je remercierai Rosanne. Je lui représenterai la sottise de Louis comme une simple étourderie de gamin dont il se repent d'ailleurs profondément. Myriel reprit donc sa course vers l'extrémité de la rue et marcha pendant quelques instants derrière deux hommes qu'elle s'arrangea ensuite à dépasser. C'était Élie Mestru et son fils Laurent qui, après leur repas, retournaient au travail. Comme Laurent marche bien, il n'a pas du tout le pas lourd du paysan, se disait Myriel. Il sera un gentilhomme campagnard dès qu'on voudra, dès qu'une femme l'aura prise en main. « J'espère que le pasteur aura compris mon petit signe. Il peut m'aider s'il veut, le pasteur, mais il est timoré. Il s'avance, il se retire, il a tout le temps l'air de demander pardon de prendre la liberté d'exister. Il tâte son terrain et dès qu'il est sûr, il se dépêche de s'embourber à côté. Maman, il suffit qu'elle touche à une chose pour la mettre en cannelle. » « Bonjour, messieurs, » fit-elle, répondant par une gracieuse inclinaison de tête au salut grave des deux hommes. Elle glissa près d'eux, s'engageant dans l'avenue des Platanes, tandis qu'ils prenaient à droite par le chemin des champs. Élie Mestru avait encore dans l'oreille le « Ah !» du pasteur, cette petite exclamation faite de mystère, de réticence, et qui semblait signifier « Voyons, voyons, tâchez donc de comprendre à demi-mot. » Tout à coup, comme s'il disait la chose du monde la plus banale, Élie Mestru aborda un sujet auquel il n'avait encore jamais touché, par réserve ou par chagrin farouche. « Laurent, ne penses-tu pas à te marier ?» Le fils tourna vers son père un visage surpris, dont les yeux francs, sérieux, observateurs, s'arrêtèrent sur les yeux paternels, perçants et railleurs pour les autres, pour lui, affectueux toujours et triste. « Mais oui, mon père, j'y ai pensé, » répondit-il. Le vieux paysan indiqua d'un mouvement sec du menton l'avenue où disparaissait la robe de linon bleu, les bottines légères et trottinantes de Myriel. « Celle-là » demanda-t-il. « Non, n'est-ce pas ? C'est trop bougillon, ça s'agite et ça tracasse. Outre que la mère, merci. Mais alors, j'y pense depuis ce matin, Laurent. » Une chose qui m'est venue dans l'esprit. Est-ce Rosanne Dupommier ? Oui, répondit Laurent très simplement, comme la question était faite. Eh bien, moi, je n'y verrai point d'inconvénient, reprit Élie. C'est une belle fille saine, une travailleuse. Peu d'argent ou point du tout. Mais on a assez. Qu'attends-tu ? Ça ne s'arrange pas, répondit Laurent avec laconisme. Il porta la main à son col de chemise, un col de toile lâche qui ne devait pas le gêner, et pourtant sa voix s'étranglait un peu. « Ça ne s'arrange pas, » répéta Élie surpris. « Elle ne veut pas de toi. Qu'est-ce qu'il y a donc ?»« Ah !» fit Laurent d'un ton vague avec un haussement d'épaule. « Elle ne veut pas quitter sa mère. Ce n'est pas une raison, ça. On pourrait faire ménage ensemble si c'est la seule difficulté. » On vous arrangera deux chambres à l'étage. Tu n'as qu'à dire, mon fils, tu n'as qu'à demander. Merci, dit Laurent. Vous êtes un bon père, je le sais.